et ensuite nous y sommes allés quelques mois. Ce qui prouve que nous avons bénéficié vraiment de la protection de notre entourage. Donc ce que je viens de vous raconter là, c'est la chance que j'ai eue et que nous avons eue. Si j'ai le temps, on arrête. Bon. Parfois. Oui.
Oui. Témoignage.
Donc,
vous laissez un peu de temps aux questions aussi un peu après. Merci beaucoup Simone, c'était... C'était un temps différemment. Ce qui est bien, c'est que chacun a vraiment chacun un témoignage différent à faire.
Je voulais dire quelque chose,
oui,
qui me revient. Albert, mon mari, a organisé un symposium dans son domaine scientifique. Les gens qu'il avait invités pour préparer ce symposium, ça va te revenir Albert, ont mangé avec nous. Il s'est trouvé que tous ces scientifiques étaient juifs, un hasard je pense, mais enfin il y en a quand même quelques-uns dans les sciences, et ils ont raconté pendant le repas leur parcours. Je pense à ça parce que finalement ce que nous racontons est assez bénin. Il y en avait un qui avait été sauvé parce qu'il était, comme gosse, la mascotte des partisans yougoslaves. Dans le fin fond des bois, il a vécu tout le temps dans les bois. L'autre était le premier qui a été sauvé par Wallenberg. Un autre, enfin ils avaient tous des histoires phénoménales, extraordinaires, tous. Alors, simplement pour dire que je crois que beaucoup d'enfants juifs ont des histoires extraordinaires à raconter, la plupart. Moi, ça me, à côté de ce qu'ils nous ont dit ce jour-là, ça me paraissait assez banal, ce qui m'est arrivé à moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'est pas banal et c'est très intéressant.
Sinon, je crois que ce sont des traumatismes que nous avons vécus, évidemment, de nature différente, mais c'était des traumatismes.
Monsieur Rocque.
Bon, ben, je n'étais pas prévu pour aujourd'hui.
Voilà, je suis vraiment en effet. Qu'on vous offre.
Bonus.
En fait, je n'ai légèrement plus avec vous. Ah. C'est bon, comme ça, c'est bon. Là, vous m'entendez bien, je pense. Hein. Bon, en fait, je n'étais pas prévu pour ce soir. Il s'avère que j'étais à une discussion d'un vrai endroit, parce que d'un vrai endroit, je suis plus âgé que vous tous, là, en fait. Je vous bats de loin. Donc, quand j'avais moins de 6 ans, mes parents m'ont envoyé à la colonie de la rue Amelot, à Berthe-Plage. Et normalement, il fallait que ce soit à partir de 6 ans. Mais comme j'étais un petit peu rachitique, ma mère s'est arrangée avec les gens de la rue Amelot pour me laisser partir avec ma grande sœur. La première fois que je voyais la mère, donc la rue Amelot, c'est vraiment la souvenir de prime jeunesse. Bien, alors maintenant, on va revenir à la guerre. Quand les Allemands sont rentrés à Paris, et pour moi c'était une grande aventure pour les situations qu'il y avait eu, des fracasses et toutes les histoires de guerre. Ça me paraissait quelque chose d'une aventure. Alors en fait, quelque chose se passe. Je pense que tous les petits gosses pensent la même chose quand ils sont très conflits, quand ils sont dans des situations très normales. Mon père a été déporté par ce qu'on appelle la rafle du billet vert en 1941, envoyé de la Hollande. Et en 1942, il a même porté l'étoile. Je l'avais fait assez loin parce que j'étais pas très violenté. J'ai pas des raccourcis. En 1942, il a même porté l'étoile. Mon père, je crois, nous a expliqué qu'il fallait être très fier de la porter. Donc, nous lui avons obéi. J'ai montré un livre à la Terre, si vous voulez voir, vous voyez très bien notre étoile. Je pense que vous le temps de l'occasion, comme c'était pas pour moi, c'est seulement pour parler de mon handicap et d'autres choses, donc je n'ai pas mis en tout. Et là, vous comptez l'étoile avec beaucoup de fierté. On en avait même fait un jeu, vous comptez l'étoile dernière rue. C'est-à-dire que quand on regarde une étoile, il faut dire que pour cette étoile, suivant l'âge qu'on avait et l'endroit où on était, on la portait d'une manière différente. J'ai deux petites cousines qui avaient 6-7 ans, on considérait un drame. Mais pour un garçon de 12 ans, une fille de 14 ans, c'est ridicule, quoi. Et on était même très fiers qu'on touchait tard des Allemands. Au moins, on était sûrs que nous, on n'était pas partie des autres. Parce que les autres, c'était absolument lamentable et effroyable, quoi. Et porter l'étoile, pour nous, c'était presque un signe de fierté. Et à l'occasion que vous verrez, vous voyez le fils, vous verrez qu'on le porte avec beaucoup de fierté, en fait. Et toutes les photos que j'ai d'autres amis, c'est toujours avec les gens se mettent photographiés très clairement, quand ils étaient adultes. Mais quand on voit les petits enfants de 6 ans à côté, on voit qu'ils sont vraiment tout à fait paniqués. Donc, il y a plusieurs manières. On en avait même fait un jeu, c'était de pas prendre un Allemand, c'est authentique et très fait d'ailleurs. On les regarde un Allemand à l'uniforme, on regardait dans les yeux, on bougeait les cheveux des autres, les gens entendaient des cheveux uniformes, on baissait les yeux. On avait fait un jeu, à l'époque on appelait ça on avait un jeu qui s'appelait le Télisman, quand on voyait la barbu, on disait qu'il y a un deuxième barbu, 30, 40, et on avait un 7, si on arrivait à avoir 5 barbus. Et là, on avait fait un jeu très identique, on regardait les gens avec une chose, s'ils baissaient les yeux, ça faisait 15. C'était vraiment courageux pour les gosses, mais on était tout à fait inconscients de ce qu'il y avait, et heureusement qu'on était inconscients, qu'on avait ce courage. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est apparu le programme de 1942. On y a échappé grâce au voisin de dessous. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, ce sera un petit peu trop long, mais c'est assez intéressant. Et ça, c'est dommage, je n'ai pas présenté dans la vie, parce que je n'ai pas voulu mettre des documents personnels, que ce soit les documents ou les lettres qui parlent de ça. On a échappé à la rade, on a passé, on a traversé le Cher. On était resté ma mère et 5 enfants. Le plus jeune avait 4 ans. Et pour passer, en étant caché, pour passer la ligne de démarcation à l'autre côté, une femme seule avec 5 enfants, aucun comportement de résistance ne pouvait nous faire avec eux. Il a peur que le frère pleure. Il est extrêmement dangereux pour une famille aussi nombreuse, avec des enfants aussi petits. Parce que j'avais deux sœurs jumelles qui avaient 10 ans et un petit frère qui avait 4 ans. Donc c'était vraiment. Il y avait tout un tas de vulgaires, on les connaissait, les personnes, le temps qu'on a essayé de les prendre. En fin de compte, c'est la personne qui l'a caché, M. Lucas, en bas de chez nous, qui a trouvé un ami qui connaissait quelqu'un à garçon et qui l'a fait passer de l'autre côté. Ça a été payant, évidemment, ce n'était pas un service gratuit. Mais c'était exactement à peu près au même endroit que je vois avec le sac de billes, parce que quand il m'a dit comment il a passé, je reconnais les lieux. Donc on a passé le Cher de l'autre côté, et ensuite il a fallu que je sois encore caché. Je vais aller très très vite là-dessus. Je crois que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait ça. J'ai retrouvé il y a 2 mois un papier fait par la résistance juive qui m'a caché. Pour me retrouver après la guerre. Alors, il donne toute mon identité, je l'appelle ici. Comme c'est l'original, je ne peux pas la faire circuler, je ne sais pas si vous voulez la voir. Alors, il y a ma photo, mes origines, les gens chez qui je suis caché, et je ne connais pas la maison qui m'a caché, ça va me permettre de retrouver le réseau qui m'a caché, en fait. Alors, comme vous, effectivement, il a fait le change de religion, mais j'étais dans une famille catholique extrêmement ouverte, résistante aussi, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas resté longtemps, parce qu'à un moment donné, c'était trop dangereux de rester dans cette famille. J'ai qu'il y avait deux cousins, un plus grand, en fait, qu'il y avait un an moins que moi, qu'il y avait un an plus que moi, qui avait souvent servi à la messe. Mais à partir du moment où je suis rentré dans leur maison, sachant que je suis juif, les enfants sont tous allés à l'église. On a allé à l'église uniquement sur les enterrements pour montrer que c'est pas la volonté des choses. Pour dire que dans ces cas-là, j'ai eu la chance de tomber uniquement sur le mérite, sur la crème des hommes, parce que où ils sont contre, où ils sont indifférents. Mais pour être avec nous, même encore maintenant, il faut quand même un certain courage. Ensuite, j'étais au collège de Vigo, avec un troisième âge de 3-7. Bon, ben, j'étais à quelqu'un en train de cacher pendant 2 ans. Je crois que j'ai un petit fichier pour ici. Si vous voulez voir ce truc-là, c'est parce que j'ai retrouvé ma photo d'origine. Alors j'avais un photo qui s'appelait Roger aussi. Et c'est devenu Roger. Et j'étais très étonné par ce nom, parce qu'à l'école, ça s'écrit R-A-U-G-E-R, pas R-O-G-E-R, ni R-O-U pour faire bouger de l'île. C'était R-A-U-G-E-R, on va se marquer là-dessus, parce que j'ai mon nom, mon pronom, tout. Et j'étais toujours attiré, j'étais bien admiré. Je pensais qu'il y avait un petit garçon à lui qui s'appelait Roger. Et en fin de compte, non, le nom Roger n'existe pas en France. J'ai regardé sur Internet, maintenant on peut très bien faire des recherches. Et quelqu'un dans notre salon m'a expliqué pourquoi le rendement lui s'est passé à Roger. Parce que c'était les mêmes papiers, la même carte d'alimentation que j'avais, mais on ne peut pas se dire R-O-T-G-O-L-T, le R est resté, le O est devenu un A, du T ils ont monté un U, le G ils l'ont gardé. Du O, le rendement ils ont fait un I, du M ils ont fait un E, et du dernier D ils ont fait un R. Et ça rend tout à fait très bien. Et j'ai remarqué le jeu de jeu avec tout un tas de petits copains qui étaient aussi encore cachés. Mais c'était leur vrai nom avec effacé, rajouté. Et donc là, j'avais mon vrai nom, mon pronom. Et je sais que vous voyez que mon pronom est vraiment faux parce qu'il existait par ailleurs. Et je vous explique comment il est devenu d'abord en général. Bon, je l'aurais été ici.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, M. Rodol. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ces messieurs-là sont devant vous pour ça. Moi, je voudrais demander peut-être à Régine comment elle a fait refaire son changement d'identité et quelle a été sa réflexion personnelle pour son changement de religion de nouveau.
Alors, réflexion personnelle, pas grand-chose. J'ai vécu la guerre dans une espèce de brouillard, donc je ne me suis pas étendue là-dessus. Je suppose, a posteriori, que cette constante prudence, le fait qu'on vit sous une autre identité, qu'on n'a plus aucune nouvelle de personne, et qu'on est jeté dans un monde inconnu, fait qu'on bloque, on ferme toutes les portes. J'imagine que c'est ça. Donc la réflexion, on n'en suis pas faite, moi, des réflexions. Je vivais au jour le jour, je ne raisonnais pas. J'étais contente qu'on me donnait à manger, et j'aurais pu devenir une espèce de zombie, enfin.
Je parle pas de ce moment-là, parce que quand j'ai retrouvé ta mère. Parce que bon, pour avoir une petite habitance, on comprend très bien.
Oui. Oui, je ne devais pas être réfutée en plus.
Mais c'est difficile d'être plutôt constant dans son temps, c'est difficile d'être là. Mais après, quand elle est plus grande, je me dis que c'est là où ça devait être difficile de rechanger du coup.
Oui, non, je pense qu'on est très malléable. Si tu parles de la période de l'après-guerre, j'ai retrouvé de la famille, j'ai été élevée par une organisation, l'Union des jeunes juifs. L'USJJ, Union sportive, ça c'était la couverture, de jeunes juifs, qui a été une famille formidable pour moi. Ma mère, qui avait beaucoup de peine à m'élever, parce que vraiment elle n'avait pas tout correct, elle a été à l'ordre d'apprendre à devenir corsetière, elle qui était tellement maladroite qu'elle était incapable de coudre un bouton, on fait des corsets et des soutiens-gorge, elle a ouvert un magasin, etc. Et moi, je me suis retrouvée dans cette association juive de gauche, bundiste, mais même au-delà, disons, on signait l'appel de Stockholm, si certains se souviennent de ça. On ne disait jamais qu'on était juifs, mais on devait être des compagnons de communistes, je veux dire, mais on devait être des compagnons de route. Et c'était une association formidable. On faisait des choses extraordinaires, du théâtre, des conférences, des camps, on chantait. Vraiment, j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et ils m'ont aidé. Si j'ai appris à tenir sur les pieds, c'est grâce à eux. Et un de mes responsables, le responsable qui m'a élevé, il est en face de moi. Et voilà, il a attendu que je sois mûre pour m'épouser. Voilà. Donc, je regrette pour la réflexion, je te déçois, mais je n'ai pas vraiment fait une réflexion, je n'étais pas mûre pour ça. Maintenant, l'âge canonique que j'ai, je réfléchis. À l'époque, je réfléchis.
D'accord,
je
n'étais pas
et j'ai appris, oui, j'ai pu m'entendre dans ma petite enfance, bien entendu, puisqu'on devait parler du Yiddish chez moi, en tout cas avec les grands-parents, avec le reste de la famille, mais j'ai appris le Yiddish à ce moment-là, et puis, bien entendu, et ma tante, qui était la mère de Victor Siegelman, certains se rappellent toute cette signature dans le Nouvel Observateur, puisqu'il était le correspondant en Israël, parce que lui aussi a tourné en Pologne. En Belgique, il a eu une histoire très mouvementée, il est retourné en Pologne, et puis il en est revenu avec Gomulka, et après il est parti en Israël, où il a donc il s'est beaucoup démené, disons, à ses risques même, au péril de sa vie, pour essayer de trouver des solutions pacifiques avec les Palestiniens, et jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore trouvé, voilà. Et il est mort depuis. Voilà.